Commencez peu à peu. Vous avez soufflé? C'est pas trop lourd quand même.
Non, non. C'est passionnant. Hein?
Justement, les actes des apôtres, si vous suivez mon plan, on est là aux actes des apôtres et les évangiles. Les actes des apôtres rapportent quelques baptêmes. Presque tous célébraient au nom de Jésus. L'expression au nom de Jésus est très importante. Je vous donne juste une référence, puis par le billet des concordats, vous pouvez trouver les autres. Je vous donne juste acte, le livre des actes des apôtres, chapitre 2, verset 38. Et puis vous le trouvez, si vous connaissez la Tobe, même la Bible de Jérusalem, vous donne à côté les références, et voilà, vous pouvez trouver d'autres références.
Il n'y a pas de différence entre au nom de Jésus par l'Esprit de notre Dieu chez Saint Paul?
Il n'y a pas de différence, effectivement. C'est l'expression au nom de Jésus qui est intéressante. Pour nous, pour comprendre qu'il y a une manière de faire chez le groupe des premiers chrétiens, qui est celui, on reviendra pourquoi, de comprendre pourquoi cela se fait. Quand je dis baptême, naturellement, effacez dans votre imaginaire la petite goutte d'eau, trois gouttes d'eau qu'on verse sur la tête d'un petit enfant, d'un bébé. Pensez, comme faisait le juif, se plonger entièrement dans l'eau. Hein.
Ça se fait.
Ça se fait, voilà, ça peut se faire, effectivement. Voilà. Donc, et puis, du baptême de Saint Paul, parce que Paul lui-même a été baptisé, du baptême de Paul, il n'y a aucun détail qui est donné. Nous avons la référence du fait que Paul a été baptisé au chapitre des Actes, chapitre 9, verset 18. Il y a toute, on pourrait dire, là, à proprement parler, il y a une initiation chez Paul. Vous le savez, hein, c'est le cas le plus éclatant. Persécuteur, terrassé par une rencontre avec le ressuscité, pas de cheval, vous le savez. Je vous avertis que ce n'est pas le cheval qui est tombé. Et puis initié par un autre chrétien.
Pourquoi il n'est pas tombé de cheval?
Ben, parce qu'il n'y a pas de cheval dans les Actes des Apôtres.
Oui.
Vous voyez comme Paul, là aussi nos mentalités et là,
nous
habituer. Voilà. Vous voyez comme quoi, il faut revenir aux sources.
Il n'y a pas de cheval.
Mais non, regardez.
Mais il y a
un
récit.
Il n'y a pas de cheval.
Le cheval, justement, il tombe de cheval.
Non. Il était habillé, disons. Voilà. Ben, on sait aussi qu'il y a des groupes de baptême, de groupes. Il y a pas qu'une personne, mais qu'il y a plusieurs personnes qui sont baptisées. Par exemple, en Samarie. C'est dans les Actes, au chapitre 8, versets 12 à 16. Ou encore à Éphèse, chapitre 19, versets 5 à 6. Ou bien il y a le baptême de chefs de famille avec les leurs, comme celui de Corneille à Césarée, dans les Actes, chapitre 10, verset 48. Ou bien de Lydia, une femme, à Philippe, chapitre 16, verset 15. Vous voyez, il y a, c'est peut-être une personne qui est baptisée, un groupe de personnes. Quand on dit il y a un groupe, quand il y a un chef de famille, c'est normal. Hein? C'est-à-dire, généralement, le chef de famille ou celui qui préside un groupe va faire baptiser aussi les autres. Ça, en gros, ce qui se passera au premier siècle du christianisme, nous le verrons de quelle manière. Souvent, est mentionné à la suite, après le baptême, après la plongée dans l'eau, souvent on mentionne un rite d'imposition des mains. d'imposition des mains. Et cela en vue de conférer l'Esprit Saint. En vue de conférer l'Esprit Saint. On le retrouve en Actes, chapitre 8, verset 16, chapitre 19, verset 6.
Voilà,
c'est vite. 8, 16, 19, 6. Et dans le cas de Corneille, c'est assez intéressant. Ça, c'est comme quoi Dieu est libre. Nous aussi, mais Dieu aussi. Dans le cas de Corneille, le don de l'Esprit précède le baptême. D'abord, il reçoit l'Esprit, et puis on confirme ce don par le baptême. Par exemple, en Actes, chapitre 10, versets 47 à 48. Mais en même temps, et nous le verrons tout à l'heure, peut-être la prochaine fois, hein, ça dépend de comment nous allons procéder aujourd'hui, mais c'est surtout un récit qu'on va travailler ensemble. Le récit du baptême de l'eunuque, de la reine de Candace, qui donne l'image la plus vivante de ce que pouvait être le baptême chrétien à cette époque-là, de la manière dont on pouvait la percevoir du point de vue chrétien. C'est un récit très beau qu'on lira ensemble, qu'on travaillerait ensemble. Ce récit est en Actes, chapitre 8, versets 26 à 39. Alors, pour résumer cette partie sur le Nouveau Testament, hein, on peut dire que la communauté primitive, celle du Nouveau Testament, hein, semble connaître déjà un rituel baptismal qui se caractérise par un geste d'eau, souvent mentionné à la suite d'un rite d'imposition des mains. Accompli, ce geste d'eau, au nom de Jésus. Ou bien, je vais reprendre ça, hein, accrochez-vous un instant, puis je vais vous décrocher. Ou bien, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, je vous décroche. Au nom de Jésus, c'est ce qu'on appelle une formule christologique. C'est lié au Christ. Ça y est ? Par contre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est une formule trinitaire. On pense que, les spécialistes sont tout à fait d'accord pour le dire, que ces deux formules ont dû convivre, être ensemble, être employées en même temps, hein, mais proviennent probablement de communautés chrétiennes différentes. Au nom de Jésus viendrait, était employé comme formule baptismale, dans les communautés judéo-chrétiennes. Vous voyez, c'était ces communautés qui étaient entièrement juives, de chrétiens issus du judaïsme. Là où la relation au rabbi était fondamentale. Vous voyez, ça disait le lien au maître. Formule christologique. Par contre, la formule trinitaire devait être plutôt issue des communautés pagano-chrétienne, c'est-à-dire non-juive, celle de langue grecque, pour nous entendre, celle vers laquelle Paul va, hein, notamment Antioche, on a pu retrouver cette formule. Puis naturellement, celle qui va se stabiliser comme formule, nous le savons, c'est celle, la trinitaire. C'est le monde des païens qui va, comment dire ça, englober ces communautés juives qui, en vérité, avec la chute du temple, vont se disperser de Jérusalem. Au moment de la chute du temple de Jérusalem, la communauté chrétienne de Jérusalem est persécutée, dispersée, hein, Et donc, il n'y a plus véritablement pas de communauté judéo-chrétienne telle qu'on pouvait l'entendre. Mais nous pouvons aussi reconnaître dans le Nouveau Testament ce que j'appellerais des structures de la, qui portent le rite baptismal. Tout d'abord, je dirais, un enseignement qui pouvait être donné. Quand je dis enseignement, ce que j'appelle enseignement est beaucoup plus proche de l'annonce évangélique, du kérigme, ce qu'on appelle le kérigme, le fait d'annoncer le Christ. Il pouvait effectivement y avoir un enseignement avant le baptême. Nous avons un exemple, par exemple, dans les Actes des Apôtres. En effet, la plupart des récits du baptême, tels que je vous ai donné les références tout à l'heure, sont liés à la prédication missionnaire. À la prédication missionnaire. Par là, je veux dire qu'on n'était pas baptisé d'emblée, mais les apôtres ou les envoyés, ceux qui étaient envoyés pour annoncer l'évangile, prêchaient et provoquaient le désir d'être baptisé. Donc le baptême scelle quelque part l'action missionnaire des apôtres et des disciples. Généralement, cet enseignement, cette prédication missionnaire présente le Christ comme le Messie. Comme le Messie. Ou encore comme le Seigneur ressuscité. Comme celui qui offre le salut. Comme celui qui offre le salut. Et toujours dans cette prédication, le salut implique, ce salut offert, je dirais, implique toujours une façon de vivre. Une façon de vivre. Exige une conversion de vie. Là, nous avons l'idée de conversion. Si on veut adhérer au Christ, à son message, il faut que qu'on se convertisse. C'est assez intéressant parce que cette manière de vivre est appelée dans les Actes des Apôtres avec une expression que j'aime beaucoup, que nous avons un peu perdue. Mais je pense que nous devrions redécouvrir cela. Et je pense que le christianisme sera cela un jour à nouveau. Les Actes des Apôtres mettent dans la bouche des apôtres, des disciples, ils appellent cette manière de vivre la voie, pas la voie, le son, mais la voie à parcourir. La voie, on le retrouve dans les Actes, chapitre 9, verset 2, ou encore chapitre 16, verset 17. La voix, l'expression de la voix est assez intéressante, je trouve, parce que, à nouveau, donc 9, 2, 16, 17. L'expression de la voix, le christianisme comme une voix, c'est assez intéressant. Il y a un théologien jésuite qui a appelé une autre expression qui est peut-être semblable, a appelé le christianisme un style de vie. Un style de vie. Mais donc, je reviens à la voix. La voix, nous le verrons dans le texte du baptême de l'eunuque, la voix nous dit qu'on n'est pas arrêté sur une voie. Une voie implique le fait de marcher, de se déplacer, de parcourir, d'avoir aussi des étapes peut-être, mais quand même, de ne pas être arrêté. Eh bien, cette démarche de conversion ou cet ensemble de prédications avant le baptême est décrite en partie, même de manière très intéressante, dans un passage des Actes, le chapitre 2 des Actes, versets 37 et suivants. Dans ce passage, je vous rappelle, c'est le contexte de la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte. Vous vous rappelez quand l'Esprit descend au Cénacle, rempli les apôtres réunis au Cénacle, et puis le récit dit qu'ils sortent dans les rues de Jérusalem et Pierre se met à prêcher. Et vous regarderez ce passage si vous en avez le temps. Pierre, en gros, fait une prédication qui reprend tout l'Ancien Testament. Il arrive à Jésus, hein, et il dit, voilà, ce Jésus envoyé par Dieu, vous l'avez crucifié. Voilà. Et les actes rapportent que tous ceux qui écoutent Pierre sont saisis et ils répondent à la fin de la prédication, je cite, « Que devons-nous faire ?» Que devons-nous faire? Et Pierre répond, convertissez-vous. La première chose qu'il dit, changez de vie. Changez. Convertissez-vous. Et puis il continue, que chacun se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Au nom, oui, on retrouve au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Et il continue, vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Donc vous voyez, à cette époque, ou selon cette prédication, cet exemple, le baptême se caractérise par le fait de recevoir le don du Saint-Esprit. Le baptême est pour recevoir le don de l'Esprit. Et du coup, ce don de l'Esprit communique une nouvelle vie et comporte, à cette époque, et devrait le comporter, c'est le propre de la théologie du baptême, comporte à une signification eschatologique. Il est donné pour vivre les derniers temps. Je vous rappelle que le groupe des chrétiens, comment vous dire, à cette époque, étaient beaucoup plus jeunes que nous. Par là, je veux dire que pour eux, trois jours après, le Christ devait revenir. Et donc, se faire baptiser était une manière de hâter le retour du Christ. Être prêt à recevoir le Christ. Donc, la conversion, à adhérer au Christ lui-même, le suivre sur cette voie dont j'ai parlé, était une manière de l'atteindre. L'Eucharistie aussi, sa manière, nous le verrons. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à partir de ce moment, à partir de ce moment, on peut repérer que le christianisme quitte les usages juifs.
C'est-à-dire à partir de la Pentecôte ?
À partir du moment où, voilà, on commence à baptiser des fidèles, de ceux qui suivent, de hommes et femmes qui suivent le Christ. On quitte les usages juifs. Vous verrez à chaque fois, nous comprendrons que certains gestes sacramentels ont toujours des racines juives, mais se détachent de plus en plus de ces racines juives.
Oui, parce qu'il y avait le baptême de Jean-Baptiste.
Il y avait le baptême de Jean-Baptiste. Alors n'oublions pas, vous faites raison à le dire, hein, que Jean-Baptiste est le premier à modifier les pratiques juives. Jean-Baptiste est le plus proche du baptême chrétien. Pourquoi ?
On baptisait chez les juifs ?
Parce que, alors, voilà, je reviens. C'est tout à fait la question que je voulais développer. Chez les juifs, il n'y avait pas de baptême au nom de quelqu'un. Il y avait ablution d'eau. Vous savez que notamment dans les fouilles qu'on a fait des grottes de Qumran, vous avez entendu parler de cette secte très proche de Jean-Baptiste. On pense même que Jean-Baptiste pouvait être issu de ce mouvement Qumranien. Hein. Eh bien, on a découvert des piscines et des piscines d'ablution. Donc, la pratique juive proche du christianisme, je vous dirai comment ça a changé,
Et il y en avait dans toutes les maisons juives, des piscines.
Voilà, disons, dans les villes, oui. Dans les maisons, effectivement, servaient pour se purifier. Mais je vous rappelle que le geste de se plonger dans ces piscines était réitérable autant qu'on le voulait. On pouvait se plonger, d'abord se plonger soi-même. Moi, Isaïa, si j'avais besoin de me purifier de certaines choses avant de manger, après la nuit, j'allais moi-même, je rentrais dans la piscine, c'est magnifique du point de vue architectural, hein. Et puis, je le faisais autant que je le voulais. À Qumran, c'est pareil. C'est une communauté de juifs. Elle aussi, c'est assez intéressant, réunie parce que perçue que le Messie doit venir. Et donc, ils se réunissent ensemble, ils vivent ensemble pour accueillir le Messie. Et ils ont comme pratique commune ces purifications avant de rentrer à faire partie de la communauté. Ça y est.
Le Messie qui doit venir ou qui doit revenir?
Qui doit venir? Nous sommes un milieu juif.
D'accord, oui. Non, mais ce n'est pas des juifs qui auraient
reconnu. Non. Nous sommes des juifs. Donc, là, nous sommes la pratique de la plongée d'eau et une pratique de purification. Jean-Baptiste innove. Parce que le baptême de Jean-Baptiste, je vous rappelle, et une fois pour toutes, là aussi. Il n'y a pas de réitération du baptême de Jean-Baptiste. Il est toujours en vue d'une conversion. Mais il n'est pas en vue de la conversion au Christ. Jean-Baptiste, ce trait d'union entre les pratiques juives et le baptême chrétien, c'est assez intéressant. Les évangiles sont témoins de l'arrivée de Jésus chez Jean-Baptiste au Jourdain. Nous avons fait mémoire dimanche dernier, le baptême du Christ, n'est-ce pas? Et là, Jean-Baptiste reconnaît celui qu'on attend.
Mais même Jésus a pratiqué ce baptême-là, on voyait dans le texte il n'y a pas très longtemps.
Jésus n'a jamais... L'évangile de Jean tient à souligner que Jésus refuse lui aussi le fait d'avoir baptisé quelqu'un.
Non, mais il a pratiqué j'ai découvert ça cette année, qu'il a fait, on dit Jésus baptisé de l'autre côté du Jourdain.
Non, mais on alors, dit, est-ce vrai qu'il baptise? Et Jésus récuse cela.
Ah, d'accord.
Il n'a pas baptisé au-delà du Jourdain.
D'accord.
Les disciples de Jésus font partie, certains disciples de Jésus font partie du groupe du baptême. C'est très intéressant. Mm-hmm. Il doit y avoir un milieu qui est assez commun. Mm-hmm. Mais Jésus n'a jamais baptisé. Jésus, entre autres, n'a pas baptisé les apôtres. Les apôtres n'ont pas été baptisés. Ils n'apparaissent pas.
Pourquoi?
Mais parce qu'ils faisaient partie du groupe. Ils n'existaient pas avant les apôtres.
Avant la mort de Jésus, ça n'avait pas de sens.
Donc, c'est assez important. Je reviens à la Pentecôte. Au moment où les apôtres comprennent le jour de la Pentecôte d'être des envoyés par l'Esprit, annoncer le Christ ressuscité, il propose cette plongée qui est proche de celle de Jean-Baptiste parce qu'elle est non réitérable, mais il la modifie, si je peux dire, en disant « Vous êtes baptisés au nom de Jésus ».
Et c'est le moment de l'ascension, ça a été dit.
Voilà, au moment... Alors là, il faudrait couper les textes. Hein. Voilà, Jésus fait l'envoi, effectivement, au moment de la...
Mais non, vous baptiserez au nom du Père.
C'est ça. Mais là, c'est une, comment dire ça, c'est une manière de faire dire à Jésus quelque chose qui
n'est pas... Oui, d'accord.
C'est une rédaction.
Oui, c'est ça.
Mais disons, si nous prenons les choses comme elles sont faites historiquement, les apôtres ne pouvaient pas baptiser entre la résurrection et l'ascension. C'était pas... L'envoi de Jésus ressuscité à Marc, c'est un envoi idéal, évangélique, n'est-ce pas, dans la rédaction des évangiles. Mais revenons à l'histoire, c'est au moment, disons, le témoignage du récit de la Pentecôte par Pierre nous dit bien que désormais le baptême chrétien se caractérise comme étant une plongée dans l'eau au nom de Jésus en vue de la rémission des péchés pour obtenir, pour avoir un don de l'Esprit Saint.
Il n'y a pas
pas de baptême avant la Pentecôte. C'est la Pentecôte qui
voilà,
déclenche,
qui, c'est dire, qui est l'origine, plans, voilà.
Qui initie le, voilà. Qui lance le baptême.
Et je le souligne une fois de plus, parce que je l'ai dit, hein, c'est toujours l'adhésion à l'annonce missionnaire. C'est-à-dire, c'est exactement comme je viens de vous le dire, que face à une prédication, les gens demandent « qu'est-ce que nous devons faire ?» Comment suivre le Christ? Et le premier geste qui scelle cette suivre le Christ sera le baptême.
Pourquoi c'est lié à la rémission des péchés?
Et parce que, effectivement, c'est l'idée, si vous voulez,
purification.
D'une purification. Voilà. Une promesse, voilà. Donc,
c'est dans la continuité du baptême de Jean.
Dans la continuité du baptême de Jean. Mais vous voyez. Jean est vraiment une sorte de trait d'union,
oui.
Très fort, hein, entre le baptême, entre les plongées de purification juive et le baptême chrétien.
Alors,
n'hésitez pas.
La différence entre le baptême de l'eau de Jean et le baptême du feu, dont on a parlé dimanche dernier,
oui.
Je vous baptiserai par le feu, par l'eau et le feu.
Oui.
Pourquoi le Christ remplace l'eau par le feu alors que finalement. C'est l'eau qu'on a retenue dans l'Église,
oui.
Plus que le feu.
Oui, le baptême par l'eau et le feu, alors j'essaie je pense que l'expression eau et le feu, ça dit l'aspect eschatologique du baptême. Le baptême par le feu, hein, c'est cet accomplissement des temps dans une vision eschatologique, vous voyez, dans ces discours apocalyptiques, hein,
oui.
Dans. Le feu brûle tout, le feu détruit tout. Donc, du coup, il y a comme l'idée que le baptême lui-même inaugure ces temps eschatologiques.
Voilà. Mais dans la cérémonie du baptême, il y a le cierge qu'on allume.
Oui, là,
ça,
ce sera plus tard. Voilà. Mais disons, restons-en à ce moment-là de l'évolution du baptême chrétien, cette fondation du baptême chrétien.
Si, d'un point de vue pratico-pratique, c'est peut-être plus facile de baptiser par l'eau que par le feu.
Oui, mais je le répète, l'expression par l'eau, c'est même mieux peut-être.
Pour les enfants.
Oui, il faudrait d'abord par le feu puis par l'eau, comme ça. Mais je le répète, l'expression par l'eau et le feu dit la dimension eschatologique du baptême. Vous comprenez le mot eschatologique, la fin des temps, les temps accomplis. Les temps s'accomplissent.
Parce que Jean-Marie dit que celui qui vient derrière moi le baptisera.
C'est ça, par l'eau et le feu. Voilà, mais c'est parce que c'est une annonce du Messie. Hein. Jean reconnaît en Jésus le Messie attendu. Et donc c'est là que le clivage, je peux dire, de suivre ou non le Christ va se mettre en place en monde juif. Mais je vous ai mis là aussi enseignement après le baptême. Nous avons quelques allusions à nouveau, hein, de instructions, de catéchèses, d'enseignements après le baptême. Il n'y a pas que l'annonce en vue d'une conversion, une annonce missionnaire. Mais généralement, on peut trouver dans les textes néo-testamentaires des passages qui font penser qu'il pouvait y avoir une réflexion au sein des communautés chrétiennes de ce qu'était le baptême chrétien. Alors, on parle assez souvent, notamment, d'enseignement des apôtres. Hein, on dit l'enseignement des apôtres, on le trouve en Acte 2, 42. Les premières communautés sont enseignées par les apôtres, mais on peut aussi trouver des instructions concernant le comportement chrétien, la vie chrétienne. Je vous donne quelques références pour que vous puissiez aller les voir vous-même. Le plus connu, c'est celui que nous entendons la nuit de Pâques. C'est Romains 6, la lettre aux Romains, chapitre 6, versets 3 à 14. Vous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ, vivez une vie nouvelle. Ce sont tous ces passages qui invitent à vivre de la vie baptismale. Ou encore, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13, suivant. Ou encore dans la lettre aux Galates, chapitre 3, verset 27. Et puis, on peut aussi remarquer que nous avons déjà, voilà, j'ai oublié cela, hein, une autre caractéristique du baptême chrétien, c'est le fait que en christianisme, on se auto-baptise pas, on se auto-plonge pas. Déjà Jean-Baptiste avait commencé cela. Hein. C'était un geste de purification, mais c'était Jean-Baptiste qui plongeait dans le Jourdain. Voilà, très proche du baptême chrétien. Le christianisme continue cela. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un geste de purification comme font les juifs, mais on est baptisé par quelqu'un. On est baptisé par quelqu'un. Et donc, du coup, on peut reconnaître certains ministres. Hein. Les lettres pauliniennes, par exemple, font mention de plusieurs ministères d'enseignement, d'abord. Il y a des gens qui enseignent, qui font la catéchèse, on dirait aujourd'hui. On parle d'apôtres, de prophètes, de didascales. Ce sont toutes des expressions pour dire qu'il y a des gens qui enseignent. Par contre, on peut avoir l'intervention à la fois des douze pour le baptême, mais aussi de leurs compagnons comme Barnabé, Silas, Apollos. Vous voyez, ce sont tous des... Et donc, je voudrais conclure cette partie avec cette lecture du modèle du baptême, qui sont les actes des apôtres 8, 26, 30. Je vais vous donner le texte. Puis, je vous demanderai si vous avez la bonté de revenir avec ce dossier, parce que nous allons continuer à lire ces textes-là. La prochaine fois, vous revenez avec le plan du cours et le dossier que je vais vous donner là, à l'instant. Pourquoi ce texte? Parce qu'il me paraît très éclairant par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Ce texte voudrait quelque part résumer et vous faire comprendre un peu la manière dont on peut comprendre le baptême à l'époque néo-testamentaire. Et puis, pourquoi je vous demande de ramener ce dossier? Parce que nous allons continuer par l'évolution historique. Alors, regardez. D'abord, j'essaie de très rapidement de vous dire l'intérêt de ce texte. D'abord, un petit détour biblique. Je ne suis pas un bibliste, mais j'ai quelques outils pour vous faire entendre ça. C'est un récit qui est dans les Actes des Apôtres. Déjà, ça c'est important. Vous le savez, on le sait, tous les exégètes savent que les Actes des Apôtres, habituellement, sont attribués à l'écriture de Luc. Et donc, il faut penser que Luc... lui-même, l'apôtre dit j'ai bien d'écrire et je vais continuer, il dit en gros. Hein. Eh bien, ça veut dire que vous devez penser ce texte, vous pourrez le faire vous-même à la maison si vous voulez, mettez comme une sorte de synopse le récit des disciples d'Emmaüs en Luc et le récit qui est là. Et vous verrez les similitudes. Il y a presque, à mon avis, il y a presque une volonté de la part de Luc de dire la même chose. Et donc, regardez ce texte. Je me permets de le lire rapidement. L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit « Pars et va-t'en à l'heure de midi sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza et les déserte. » Il partit donc, s'y rendit justement un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, qui était venu en pèlerinage à Jérusalem, s'en retournait, assis sur son char en lisant le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et rattrape ce char. Philippe y courut et entendit que l'eunuque lisait le prophète Isaïe. Il lui demanda, comprends-tu donc ce que tu lis? Et comment pourrais-je, dit-il, cette personne ne me guide. Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir près de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était le suivant. Comme une brebis qui était conduite à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond, ainsi n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, la justice lui était déniée, sa postérité qui la racontera, car sa vie est tranchée de la terre. S'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit, « Je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit alors la parole et partant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Chemin faisant, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Puis je vous ai mis, vous lirez la note, hein, une variante qu'on connaît très peu. Si tu crois de tout ton cœur, c'est permis. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe avec l'eunuque, et il le baptisa. Mais quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Et il poursuivit son chemin tout joyeux. C'est tout simple, vous voyez, un récit, comme on pouvait l'entendre chez les chrétiens à cette époque-là, en disant, tu te rappelles de l'eunuque. Et voilà, je vous fais remarquer quelque chose de très intéressant. D'abord l'incipit, qui correspond à la femme, à nouveau, avec ce que j'appelle le chiasme. L'ange du Seigneur s'adressa, ne pensez pas à l'ange avec les ailes, c'est probablement l'esprit, comme il y a l'esprit à la fin. L'esprit est l'esprit. Hein? S'adresse à Philippe. Philippe, le disciple, le diacre, hein, parmi les sept. Hein? Et il lui dit quelque chose d'impossible. Remarquons ensemble. Pars et va-t'en. À l'heure du midi, vous présentez en Palestine à l'heure du midi,
oui.
Sur l'heure de Jérusalem exacte, qui est infesté de brigands. La route entre Jérusalem et Gaza était très dangereuse. Elle est déserte en plus. Donc si il y a quelqu'un qui te tape dessus, tu ne peux pas avoir la vie sauve. Il demande une chose impossible. Échec dès le début. Mais il part donc. Il part donc sur l'obéissance à l'esprit. Et puis, c'est même parfois un peu, il y a de l'humour, hein. Justement, par hasard, une Éthiopienne passait par là. Il y a beaucoup d'humour dans ce texte. Justement, c'est déserte, mais justement, une Éthiopienne passait par là. Et donc là, c'est quand même un haut fonctionnaire, et c'est pas n'importe qui. C'est pas un brigand, c'est pas, très commodement, voilà. Et en plus, un Éthiopien, mais... apparemment qui est allé à Jérusalem en pèlerinage, donc qui est un juif, qui suit la religion juive. Hein.
Oui, on est sûr que c'est un juif.
Eh bien, d'abord il lit la Bible, et il revient du pèlerinage à Jérusalem.
Oui, mais en même temps il comprend rien.
Voilà, il ne comprend rien au texte. Mais on est ménage, fait qu'il ne comprend rien. Mais le fait qu'il soit allé en pèlerinage, vous savez, c'est assez intéressant, j'ouvre une parenthèse, vous savez que les Éthiopiens chrétiens, oui. Ils se disent... Ils disent, nous sommes fils de la reine de Saba.
Oui.
Donc, l'Esprit lui dit, il lit le prophète Isaïe, donc il est ancré dans les Écritures. L'Esprit dit à Philippe, avance et rattrape ce char. Donc, je vous rappelle à nouveau la voix. On est dans un mouvement. Philippe courut, donc effort pour courir à nouveau. Hein. Et il entendit que l'eunuque lisait le prophète Isaïe. Là aussi, j'ouvre une parenthèse. Dans l'Antiquité, on ne lit jamais pour soi-même. On lit toujours à voix haute. On lit à voix haute. Même Augustin dit cela d'Ambroise. Le grand Augustin d'Hippone dit cela d'Ambroise de Milan. Dit, mon maître lisait tout haut, lisait les évangiles, par exemple, voyez, mais on entend, c'était pas normal de lire pour soi-même.
Il
fallait mâcher.
Hein? C'est au Moyen-Âge qu'on commence à peu près.
Voilà, exact. Voilà. Philippe entend que il lui dit, comprends-tu ce que tu dis? Voilà, entre lire et comprendre, il y a une grosse différence. On peut lire et ne pas comprendre. Comprends-tu? Et est-ce que tu... Et là, comprendre, c'est comprendre des tripes à la tête. Hein. C'est-à-dire, comprendre, c'est un tout. Hein. Eh bien, comment pourrais-je dire si personne ne me guide? Autre note d'humour. Il est assis dans son char, quelqu'un probablement le guide, mais n'est pas guidé. Paradoxe. Et alors, c'est l'apôtre qui le guide hein, et qui le fait entrer dans une autre voie, qui n'est pas celle entre Jérusalem et Gaza, mais celle des Écritures. Et qui, justement, regardez, fait dénouer la compréhension en partant des Écritures du prophète Isaïe et du serviteur souffrant que nous entendons encore aujourd'hui le Vendredi Saint. C'est ce passage même que nous entendons le Vendredi Saint. Et à partir de là, il va annoncer le Christ. Juste parler sur l'image, c'est de cette manière que les chrétiens ont créé les évangiles. C'est-à-dire que les évangiles ne sont pas tombés du ciel. Nos écritures ne sont pas tombées du ciel. On les a rédigées. On les a rédigées à partir de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que ce sont une manière de relire l'événement du Christ, sa vie, mais la lumière de l'Ancien Testament. Et donc, on pourrait dire que presque le noyau dur est la passion du Christ. Parce qu'il dit, voilà, il parle de la Trinité de Dieu et il annonce la bonne nouvelle de Jésus. Probablement, Ce serviteur est le Christ qu'on a crucifié, il est ressuscité. Ça y est. Et puis donc, chemin faisant, vous voyez, on a l'impression d'être sur le char, hein, le texte est presque avancé avec le char. Ils arrivèrent à un point d'eau, le petit, voici de l'eau. Il y a là l'adhésion, ce que nous appelions la liberté. Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Probablement, Philippe a dit la même chose que Pierre. À ses auditeurs, convertis-toi et fais-toi baptiser, fais-toi plonger. Ça, c'est pas dit, mais il est possible parce que le nuque le demande. Hein. Et là, il y a cette variante très intéressante parce qu'il rapporte probablement de manière successive ce que pouvait être le rituel baptismal, c'est-à-dire adhésion à la foi au Christ. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et donc, il fit arrêter le char, il descend, baptême, plonge le nuque, et regardez, c'est assez intéressant. Il remonte, et c'est l'Esprit qui enlève Philippe, pour dire, l'Esprit a agi, le don de l'Esprit. Et en plus, il poursuit son chemin tout joyeux, qui est un signe de la présence de l'Esprit, la joie, la paix, la joie. Si vous...
Et il y a, ce qui me frappe aussi, c'est que c'est lui qui demande le baptême.
Tout à fait. Tout à fait. Mais parce que, comme pour Pierre...
Philippe, c'est pas Philippe qui lui vend...
Toujours la liberté dont nous parlions. Mais en plus, comme pour Pierre, ouais. Il parle et les gens disent, qu'est-ce que nous devons faire? Ouais. Plongez-vous. Voilà. Ce qui est intéressant... regardez très rapidement, si vous pensez au récit d'Emmaüs, c'est pareil. Le pèlerin marche avec le disciple, il ouvre les écritures avec eux, il fractionne le pain, là, le geste, c'est la fraction du pain. On pourrait dire que le récit d'Emmaüs, c'est pour l'Eucharistie, ça c'est pour le baptême. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il disparaît lui aussi. On a comme un diptyque, deux tableaux très beaux. Biblique, hein, qui parle de l'Eucharistie, l'autre du baptême, toujours sur la plume de
l'Eucharistie. Et ça se termine dans la joie.
De l'annonce. Nous allons continuer la prochaine fois en voyant, c'est une bande annonce celle-ci, comme font les Américains, vous savez, les séries américaines. Vous verrez comment ce geste va évoluer dans l'histoire. Merci.
Merci beaucoup.
Merci.